sa vie. Il rentre, c'était le paragraphe 3 d'une section qui était... Voilà, c'est section 2, l'âge d'or de la patristique, dans mon chapitre 2. Paragraphe 3, Saint-Augustin d'Hippone, grand A, biographie. Alors, je commence. Alors, cette biographie, la vie, non, elle nous est connue par les confessions, justement, qui racontent sa vie jusqu'à sa conversion, par ses dialogues, et aussi par ses lettres, et parfois même par ses sermons, parce que de temps en temps, il ressort un épisode de sa vie, voilà. Et également celui qui lui succédera sur le siège d'Hippone, qui est un de ses amis, Posidius, va également rédiger une vie de saint Augustin. Et il ajoutera même la liste des ouvrages de sa bibliothèque, qu'on appelle l'Indiculus, donc une sorte d'index, des ouvrages que possédait. Alors, souvenez qu'à l'époque, un livre, c'est vraiment très précieux. Hein. C'est rare, peu reproductible, surtout à une période où l'Empire commence à s'effondrer et où les ateliers d'écriture sont moins nombreux. Voilà. Alors, la destinée de saint Augustin est tout à fait... on pourrait presque en faire un film, hein, un scénario de film. Enfin, il y a des rebondissements. Alors, on va commencer par sa conversion, petit A. Après, on verra saint Augustin, une fois qu'il est... sa conversion... Aussitôt après, elle va déboucher dans sa mission, enfin, on pourrait dire sacerdotale épiscopale. Donc, tout d'abord, on pourrait presque dire Augustin avant de recevoir les ordres, c'est-à-dire presque avant sa conversion. Puisque... Alors, il naît dans une ville hein, qui s'appelle Tagaste.
C'est à Naba. C'est à côté d'Annaba.
Oui, c'est ça. C'est actuellement en Algérie.
C'est bien.
Oui. Ça doit être par là, oui. Alors, à l'époque romaine, c'est dans la province de Numidie. Et il naît dans une famille de la petite bourgeoisie provinciale. Son père, Patricius, était un officier subalterne, un peu comme le centurion de l'Évangile. Et il se fera baptiser peu avant sa mort, en 371, selon une pratique courante de l'Antiquité, où on différait le baptême à cause du caractère non réitérable facilement de la pénitence. C'est-à-dire que lorsqu'on était craignait de faire des péchés graves, et sachant que la pénitence était quelque chose de public et d'extrêmement lourd, on préférait attendre le baptême pour que tous les péchés soient effacés. Et on attendait finalement le dernier moment, c'est-à-dire le moment où on ne pouvait plus en faire, pour être bien sûr de ne pas avoir à faire de pénitence publique après. Et alors, un certain nombre de professions étaient évidemment plus sujettes à, disons, à ces pénitences publiques et donc aux péchés qui les précèdent, à une époque où encore on n'était pas très très sûr de certains points, comme par exemple le service militaire. Le fait de porter les armes et donc de tuer, donc rentrait dans la catégorie de l'homicide. Et l'homicide était un péché grave dont il fallait se purifier. Ce qui faisait que, du coup, les militaires de carrière, sachant que le service militaire pouvait durer 40 ans, avaient tendance à attendre leur démobilisation pour être baptisés. Donc, voilà, donc c'est un usage assez courant. Donc lui était plutôt un païen, hein, même d'ailleurs, et alors que son épouse, qui était plus locale, était quelqu'un de très fervent. Donc son épouse, on la connaît bien, c'est Sainte Monique, dont justement Saint Augustin nous parle beaucoup dans ses confessions. Alors il a aussi un frère et une sœur. Et donc selon l'usage, il est inscrit parmi les catéchumènes, mais finalement, comme son père, il va différer le moment de son baptême. Alors pourquoi? Parce que à l'adolescence, il perd ce qu'il appelle dans les confessions la religion de sa mère. Hein, en fait, on pourrait dire le caractère un peu affectif ou la religiosité que connaissait sa mère. Alors il va faire des études, d'abord à Tagaste, dans sa ville natale, puis dans la métropole de l'Afrique du Nord romaine, romaine latine, c'est-à-dire Carthage. Et c'est là, donc, à cette période, qu'il va rejeter sa piété d'enfant, donc à l'adolescence, et qu'il va se livrer à tous les plaisirs. Il aura plusieurs aventures amoureuses et un concubinage stable qui aurait presque pu déboucher sur un pax, hein, pax romana. Donc un concubinage avec une fille d'humble condition que sa mère prendra en grippe assez rapidement parce qu'elle a des ambitions pour son cher fils. Et donc elle trouvait que la fille en question dépareillait un peu. Alors il finira d'ailleurs par se débarrasser de cette fille sous l'influence de sa mère après sa conversion.
Un enfant ?
Oui, qui s'appelait Adeoda, Adeodatus, hein, donné par Dieu, 372. Né en 372, et qui mourra peu de temps après son baptême et le baptême d'Augustin, parce que les deux seront baptisés en même temps. Donc, Augustin ne congédiera cette femme, dont on ne connaît pas le nom, qu'en 384. Oui, il est né en 354, il avait 30 ans. Et à l'époque, envisageait de le marier, de faire un beau mariage, puisqu'il avait fait des bonnes études et qu'il aurait dû être un énarque du temps, quoi. Enfin, voilà, il aurait dû être haut fonctionnaire à la cour, puisque Milan est l'une des deux capitales opérationnelles de l'Occident latin. Alors, Trèves et Milan. Si on revient à ces... non pas à ses frasques d'adolescent et de jeune homme, mais à ses études, à sa vie intellectuelle, eh bien, son premier choc sera la lecture d'un dialogue de Cicéron qui s'appelle l'Hortensius, qui date de 374, qu'il lit en 374, c'est un peu plus vieux, 4 siècles de plus. Et ce texte va éveiller en lui l'amour de la sagesse, même s'il fera souvent fausse route, qu'il le reconnaîtra, notamment dans ses confessions. Et justement, au livre 3e des confessions, chapitre 4, il dit « Je ne vis plus soudain que bassesse dans mes vaines espérances, et je convoitais l'immortelle sagesse avec un incroyable élan du cœur. » Enfin, il faudra quand même 10 ans pour que ça aboutisse à quelque chose. Hein, c'est pour vous dire qu'il a pris son temps. Hein, en tout cas, ça éveille en lui, ça le fait sortir d'un certain matérialisme, d'un certain juste désir d'arriver qui d'ailleurs lui sera reproché par Saint Jérôme, qui est son aîné de quelques décennies, qui le traitait de petit arriviste. À une période.
C'est pas très charitable.
Non, mais Jérôme n'a pas été non plus canonisé. C'est lui qui a traduit la Bible. Il n'a pas été canonisé pour son bon caractère, mais plutôt pour la Vulgate, pour différentes choses. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il se tourne, puisqu'il se met à la recherche de la sagesse, qu'il est plus ou moins chrétien, il va se tourner vers la Bible, vers la piété de sa mère, mais là, il est dégoûté par les histoires barbares de l'Ancien Testament, qui sont plus ou moins prises au pied de la lettre à l'époque, et aussi la pauvreté de la langue. Alors, à l'époque où il lit la Bible, hein, c'est pas encore la Bible de Jérôme, ce sont des traductions faites un peu par des tâcherons du grec, voire de l'hébreu, mais surtout du grec, de la Septante, hein, autrement dit de la Bible de l'Ancien Testament grec, et puis des versions grecques du Nouveau Testament. Donc au moment où les Romains, l'Occident reçoit la révélation chrétienne, essentiellement par la voix de juifs hellénisés et de grecs, dans la mesure où ce sont les premiers qui vont se convertir, finalement la langue véhiculaire reste le grec, hein, qui est un peu finalement l'anglais globiche d'aujourd'hui. Donc même à Rome, on parle grec, Marc Aurèle écrit ses mémoires en grec, etc. Le grec reste la langue finalement véhiculaire. Or, le christianisme se développe beaucoup dans les milieux marchands, les milieux de gens qui bougent beaucoup, et donc qui sont habitués à utiliser une langue véhiculaire et pas la langue locale, en somme. Donc, finalement, on n'a pas eu besoin vraiment de latin très vite. On s'est satisfait du grec pendant deux siècles, hein, à peu près. Finalement, c'est un peu Tertullien, autour des années 200, qui va commencer à écrire en latin et à disputer en latin, etc. Et comme les premières dizaines de papes, parce qu'être pape à l'époque, c'était prendre un accessit pour la sainteté, voire le martyr, via le martyr. Donc la plupart venaient d'Orient d'ailleurs, hein. C'était des Syriens, des Grecs, des Palestiniens, enfin des gens comme ça, donc qui étaient tous plutôt hellénophones, hein. Et donc finalement on a eu besoin de latin au moment où le christianisme s'est suffisamment répandu dans le monde occidental pour commencer à toucher des populations rurales, des populations provinciales, des populations qui étaient un peu moins en lien avec le monde trépidant de la grande cité, des grandes cités de l'Empire. Et alors, on a commencé à avoir des traductions. Et ces traductions, elles étaient un peu ce qu'elles étaient, hein. Et c'était pas que du Cicéron, donc. Et c'est précisément ce qui va... c'est ce qui va choquer, gêner Augustin, parce que ici, si Dieu parle, et que si Dieu est la suprême sagesse, donc la suprême perfection, et que c'est dans une langue aussi misérable, remplie de barbarisme, etc., ça lui paraissait pas très plausible. Et c'est la raison pour laquelle il dira ça, que la Bible était indigne d'être comparée à la majesté d'un Cicéron. Elle était trop grossière dans son contenu et dans sa forme. Donc voilà la position de Cicéron quand il a 20 ans. 20-25 ans. Alors, comme il est toujours à la recherche de la sagesse, il va tomber sur des manichéens. Ça le séduit sans trop le séduire. Il adhère avec hésitation aux idées manichéennes, hein, vous savez, qui sont une sorte de syncrétisme entre le dualisme iranien entre la lumière et les ténèbres, conçu souvent d'une manière très matérielle, hein. Le bien et le mal hérité du monde juif, judéo-chrétien, Enfin bref, un certain nombre de dualismes qui ont été fondus par un Iranien qui était lui-même frotté de christianisme. Donc Augustin n'est pas totalement convaincu par leur doctrine, il l'est encore un peu moins par leur pratique. L'ascèse des parfaits ne le séduit qu'à moitié, parce que justement chez les manichéens, on prône comment dire, la continence, etc., etc. Puis lui est toujours affublé de sa concubine. Alors le manichéisme, c'est une interprétation, on pourrait dire, rationaliste du christianisme, dualiste aussi, donc le bien, le mal, enfin voilà, deux concepts qui s'opposent et qui sont conçus presque matériellement comme lumière et ténèbres. Il va essayer de lever ses doutes en interrogeant un certain nombre de manichéens. Il est déçu par leur réponse. Il finit par coincer leur évêque qui s'appelle Faustus. Là aussi, il est très déçu par ce qu'il peut dire pour défendre sa doctrine. Alors, Augustin s'interroge à cette époque sur le beau et l'utile. Il dit que le beau, à la différence de l'utile, a sa fin en lui-même, et donc il est spirituel. Et il n'est pas non plus convaincu par la réduction du beau précisément à la lumière matérielle. Alors voilà donc vous voyez, il adhère au manichéisme, mais d'une manière un peu pointilliste, avec beaucoup de réserves. À cette époque, il devient aussi professeur il a des élèves et il est déçu par eux, il les trouve médiocres. Alors, il est déçu par le manichéisme, il est déçu par l'enseignement, et finalement.
Sont des cours de quoi?
Ah, des cours de rhétorique. Autrement dit, pour devenir quelqu'un d'important, il fallait être rhéteur. Autrement dit, il fallait devenir sophiste, en un mot. Donc, c'est un peu à ça qu'il s'était occupé. Et alors, finalement, il va embrasser la philosophie à peu près des intellectuels de son temps, c'est-à-dire le moyen platonisme qui est le scepticisme. Vous savez, ce scepticisme que Pascal au XVIIe siècle appelle les Pyrrhoniens, les disciples de Pyrrhon, contre lesquels ils iront pas mal de lances. Alors, il va quitter son Afrique du Nord. Et part pour Rome. Il y arrive en 383. Vous voyez, il a presque 30 ans.
Avec sa concubine.
Oui. Et son fils.
Et son fils.
Et là, il est également déçu par ses élèves, parce qu'il va à nouveau enseigner. Il est aussi déçu par ses élèves. Et il profite d'une opportunité pour obtenir un poste de rhéteur à Milan. 384, Milan, qui est la capitale de la partie intérieure de l'Empire d'Occident, puisqu'à l'époque de Dioclétien, on avait coupé l'Empire en deux morceaux, essentiellement l'Occident et l'Orient, et on avait divisé chaque morceau en deux encore, un peu de manière longitudinale. Pour qu'il y ait à chaque fois un prince capable de gouverner et de défendre la partie de l'Empire. Alors, ça a très mal marché, hein, mais en tout cas, la partition était restée plus ou moins dans les mœurs. Donc, il y a un empereur d'Occident qui siège à Trèves, hein, sur le Limès, un autre, vous savez, César, Auguste, hein, un autre qui est à Milan. D'où il gère l'ensemble, mais plus particulièrement la zone italienne et espagnole et africaine. Alors donc il arrive à Milan, et là, se souvenant qu'il est catéchumène, commence à assister aux enseignements de l'évêque du lieu, qui s'appelle Ambroise de Milan.